Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges.
Bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle session du cours de physique de matière condensée. Donc le cours de cette année va être consacré à un certain nombre d'aspects topologiques et géométriques en physique des matériaux quantiques. En fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce cours, c'est que depuis maintenant 10 à 15 ans, on voit émerger toute une physique qui est celle des matériaux bidimensionnels de type moiré, donc des matériaux dans lesquels il y a un désaccord de maille ou d'orientation, ce qui produit des périodicités de très grandes périodes avec des bandes d'énergie très plates, avec toute une zoologie fascinante de phénomènes physiques, supraconductivité, effet topologique, etc. Et au départ, j'avais pensé focaliser entièrement ce cours sur ce nouveau sujet. Et puis, en commençant à préparer, je me suis aperçu que c'était difficile de faire ce cours sans revenir à des aspects beaucoup plus fondamentaux et des aspects de base de la topologie en physique quantique. Et donc, j'ai décidé de faire un cours plus introductif et moins, sans doute moins en prise avec les derniers développements de la recherche, mais qui reprennent des notions importantes de topologie en physique de la matière condensée. Alors évidemment, il y a les séminaires, donc les séminaires compléteront le cours avec des aspects plus contemporains. Je vais vous dire un petit peu comment j'ai pensé à ce cours. D'abord, j'ai décidé aujourd'hui de faire deux cours, pas de séminaire, donc ça sera une séance assez intense. La raison est qu'il y a beaucoup de notions à introduire, donc je profite de ces trois heures de cours pour pouvoir introduire ces notions. Les séminaires débuteront la semaine prochaine. Comme d'habitude, les cours sont en français, mais dans la mesure du possible, je vais m'efforcer d'écrire les choses en anglais au tableau. Les transparents sont également en anglais, de manière que le public bilingue puisse suivre peut-être un petit peu plus facilement. Et voilà un petit peu le déroulé des cours tels que je l'ai pensé. Vous verrez, c'est un programme quand même assez intense. Je ne sais pas si je vais vraiment y arriver. Donc, aujourd'hui, deux cours, un certain nombre de notions de base, puis une description de l'effet Hall quantique entier, qui est quand même une des grandes découvertes et un des grands laboratoires d'idées aussi de la physique de la fin du siècle dernier, on va dire. Alors, bien entendu, un cours sur l'effet Hall quantique, disons les effets Hall quantiques, incluant l'effet Hall quantique fractionnaire, pourrait occuper tout un cycle de cours. Donc, ça va nécessairement être quelque chose qui se place à un niveau assez introductif et en mettant le projecteur sur certaines notions essentielles liées à la topologie. Je n'aurai pas le temps de décrire beaucoup d'aspects de la physique de l'effet Hall quantique. Donc ça, c'est le premier cours aujourd'hui. Le second cours d'aujourd'hui va explorer la géométrie et la topologie des états de bloc, donc quand on a un potentiel périodique dans un matériau, et en suivant en particulier un célèbre article que tout le monde appelle TKNN, vous verrez pour de quels auteurs il s'agit, dans le cours 2. Donc ça, c'est la séance d'aujourd'hui. La séance prochaine, je vais continuer sur les aspects topologiques des bandes d'énergie en parlant d'isolant de Chern et du fameux modèle de Holden introduit à la fin des années 80, qui est un premier exemple dans lequel la topologie des bandes d'énergie conduit à un effet Hall quantique sans champ magnétique global. Je vais vous parler de graphène également, j'espère à la fin du deuxième cours d'aujourd'hui. Et puis, il y aura un séminaire donné par Dimitri Efetov, qui est un des grands spécialistes du graphène torsadé ou du graphène twisté, je ne sais pas comment il faut dire, et qui va nous donner une espèce de revue de l'état de l'art actuel sur la compréhension et les expériences dans le graphène twisté. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a une date exceptionnelle, le cours a lieu le mercredi à 9h30, mais il y a une date exceptionnelle dans cette liste, qui est le lundi 18 mai à 11h, où Nathan Goldman va nous donner un cours, qui je crois, un séminaire qui je crois complétera assez bien le premier cours d'aujourd'hui sur les aspects topologiques et en particulier les invariants topologiques dans un contexte de système en interaction. Donc le many body chain numbers et les différents aspects de cette question. Donc ça sera le lundi 18 mai à 11h sans cours. Ensuite, le 20 mai, je vais vous parler des faux quantiques fractionnaires. Donc de nouveau, c'est un sujet énorme qui pourrait faire l'objet de tout un cycle de cours. Il s'agira d'un cours introductif. Et il y aura un séminaire qui sera très complémentaire. Il sera donné par Nicolas Regnault. Nicolas a été un des pionniers de l'étude des systèmes des faux quantiques fractionnaires par diagonalisation exacte en particulier. Et tout récemment, il s'est intéressé à toute une série de sujets dans le domaine des systèmes de Moiré. Et il va nous parler des isolants de Chern fractionnaires qui sont à l'effet faux quantique fractionnaire, ce que les isolants de Chern sont à l'effet faux quantique entier. Lors du cours 5, je vais essayer de vous donner une petite introduction aux matériaux de Moiré, donc on va entrer dans des choses un petit peu plus récentes. Alors là encore, c'est un immense sujet qui a explosé depuis 10 ans. Je vais essayer de focaliser le cours 5 sur pourquoi il y a des bandes plates, et en particulier vous parler de la limite chirale qui permet de comprendre ça de manière très, très propre. Et si j'y arrive, le séminaire sera donné par Rebecca Ribeiro-Palao, qui est une chercheuse du C2N qui travaille sur ces matériaux de Moiré, qui a fait des très belles choses aussi avant quand elle était à Columbia. Et puis le 3 juin, si j'arrive jusque-là au point de vue des sujets, ce n'est pas sûr que j'arrive vraiment jusque-là, je vous parlerai de géométrie quantique et de supraconductivité, du rôle de la métrique quantique pour la supraconductivité des bandes plates. Et on aura un séminaire par Gwenda Lefebvre. Gwenda Lefebvre a fait un tour de force expérimental en démontrant l'existence de statistiques fractionnaires expérimentalement pour les faux quantiques fractionnaires. Alors c'est un séminaire qui aurait bien complété le cours 4, mais enfin bon, les hasards du calendrier font qu'il arrive à la fin du cycle de cours. Donc voilà un petit peu le menu. Il est assez ambitieux. Comme je vous ai dit, je vais certainement rester à un niveau très introductif. Certains ou certaines trouveront peut-être ça un peu superficiel. J'insiste aussi sur le fait que ce sujet n'est pas ma zone de confort habituelle. Et comme d'habitude au collège, je vois pas mal de spécialistes dans la salle. Donc ça, c'est la règle du jeu. Si je dis trop de bêtises, vous êtes les bienvenus pour intervenir. Quelques détails pratiques. Il y a une mailing list du cours. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont déjà inscrits. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez envoyer un mail à cette adresse avec la simple mention « subscribe » et vous serez automatiquement inscrit sur cette liste. Donc voilà pour les aspects pratiques. Alors, je vais essayer de commencer par motiver ce cycle de cours en justifiant pourquoi je voudrais parler de topologie. Donc, la topologie s'est clairement imposée comme un concept central en physique de la matière condensée, je dirais depuis plus de 50 ans. Et en fait, ça commence, alors, je ne vais pas faire une historique complète, hein, mais ça commence avec la physique classique, et pas de la physique quantique. Donc, on peut aller chercher du côté de la classification topologique des défauts, par exemple, et bien sûr de la transition de Berezinski-Kosterlitz-Thouless, prix Nobel pour Kosterlitz et Thouless, qui montre le rôle clé joué par les défauts topologiques dans un certain nombre de transitions de phase. Mais la grande entrée de la topologie dans la physique quantique, c'est la découverte de l'effet Hall quantique entier dans les années 80. Et ça, c'est vraiment l'entrée des notions de topologie en physique quantique. La topologie devient essentielle pour un certain nombre de raisons. D'abord, elle explique la quantification de certaines observables, la conductance de Hall en l'occurrence, mais surtout, elle explique le fait que cette quantification soit robuste, c'est-à-dire qu'elle soit insensible à la présence de désordres, d'interactions, etc., de forme de l'échantillon, d'imperfection de l'échantillon, avec une précision extraordinaire, au point que ça a changé la métrologie, comme vous allez le voir dans quelques slides. Peut-être plus profondément encore, la topologie nous fournit une classification des phases de la matière qui n'est pas basée sur la définition d'un paramètre d'ordre local. On verra dans le cas de l'effet quantique fractionnaire qu'il y a une notion d'ordre topologique qui permet de distinguer, de caractériser certaines phases. Un autre aspect très important, c'est l'équivalence entre le centre du matériau et les bords, donc ce qui s'appelle bulk boundary correspondence. Le fait qu'il y a une topologie non triviale dans le bulk implique l'existence d'états de bord conducteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est d'une part important pour comprendre de manière plus microscopique même la physique de l'effet Hall quantique entier. C'est quelque chose qui est observable expérimentalement, qui a évidemment connu une heure de gloire incroyable avec les isolants topologiques, mais c'est aussi quelque chose qui se rattache à des théorèmes de mathématiques, en particulier les théorèmes de l'index, qui permettent de comprendre cette connexion entre topologie non triviale dans le bulk et état de bord protégé. Donc tout ça a des conséquences expérimentales mesurables et joue un rôle important dans la compréhension actuelle des matériaux de Moiré, d'où l'importance de revenir à ces notions de base, comme j'ai décidé de le faire dans ce cours. Alors, avant de commencer sur l'effet Hall quantique entier, je voudrais essayer de vous donner un petit peu un parfum de qu'est-ce que c'est que la topologie. Vous en avez, j'imagine, tous et toutes fait un peu. Et comme il y a des mathématiciens et des mathématiciennes dans la salle, je vais sans doute me ridiculiser un peu en donnant une vision extrêmement, high level de ce sujet. Mais enfin, point de passage obligé. Donc, qu'est-ce que c'est que la topologie en termes extrêmement général? Donc, les concepts topologiques, c'est une manière de regarder des variétés, par exemple, ou des espaces d'une manière plus générale, d'un point de vue global, et pas d'un point de vue local, quelquefois en mariant les aspects globaux et les aspects locaux, dans le cas de la topologie différentielle. Et l'idée, c'est de se focaliser, de caractériser les différents espaces topologiques qu'on va regarder par des invariants qui sont donc invariants sous l'effet de déformations non singulières. Donc de relier entre eux différents espaces qui peuvent être déformés l'un dans l'autre par une série de transformations non singulières. Alors, pour vous donner un exemple extrêmement naïf, si on se pose la question de quelle est la distance entre deux villes, c'est une question géométrique, question locale, on peut intégrer pour trouver la distance entre ces deux villes. Et si on se pose la question de est-ce qu'il y a un chemin qui connecte celles sans avoir à traverser un océan, c'est une question de topologie. Vous avez tous vu ce petit film, je vais essayer de faire démarrer ici, qui déforme une mug en un donut. Ne les confondez pas pour votre petit déjeuner, mais voilà. Donc le mug et la donut sont deux surfaces qui sont de genre 1, parce qu'elles ont une poignée. Et pour un topologiste, une mug et un donut sont les mêmes objets. C'est même quelquefois une définition des topologistes. Quelqu'un qui n'est pas capable de distinguer une mug d'un donut. Alors je vais vous donner quelques exemples un peu plus sérieux de considération d'ordre topologique. Voilà un exemple bien connu, la caractéristique de l'air. Vous prenez des poudrières convexes en trois dimensions et vous formez cette combinaison qui est la caractéristique de l'air, qui est le nombre de sommets moins le nombre de côtés plus le nombre de faces. Et donc, quand vous regardez tous ces poudrières convexes, donc depuis le tétraèdre qui a 4 sommets, jusqu'à ici l'isocaèdre qui en a 12, eh bien, vous comptez tout ça et vous voyez que la caractéristique de l'air est invariante, est toujours égale à 2. Donc ça, c'est un invariant topologique des polyèdres convexes, et fondamentalement, ils nous disent que tous les polyèdres convexes sont topologiquement équivalents à une sphère, en gros. Et ceci ne s'applique pas aux polyèdres non convexes. Par exemple, ici, il y en a un qui porte un nom remarquable, que je ne vais pas me risquer à prononcer, pour lesquels la caractéristique de l'air est moins 2, et qui n'est pas topologiquement équivalent à une sphère. Alors, ce n'est peut-être pas très clair sur ce dessin, mais ici, le sommet, tous les vertex, tous les côtés ici se rejoignent au sommet, d'accord ? Donc ils sont attachés au centre. Un autre exemple, pour cette fois des surfaces régulières de considération topologique, c'est le fameux théorème de Gauss-Bonnet. Donc si je regarde une surface bidimensionnelle compacte, je peux regarder en chaque point de sa surface ce qu'on appelle la courbure de Ricci. C'est un tenseur qui a deux valeurs propres. Alors je ne vais pas vous faire... Je ne vais pas faire un cours de topologie, je suis complètement incapable. Je vais utiliser des notions de topologie quand elles deviennent utiles pour la physique. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur ce qu'est la courbure de Ricci, ce qu'on fait de la relativité générale ou de la géométrie différentielle le savent. Mais de manière très simple, si je trace deux courbes en un point d'une surface, je peux chercher la courbe qui a la courbure la plus grande et la courbe qui a la courbure la plus petite avec son signe. Donc par exemple ici j'ai dessiné un cas où il y avait un point sel. Donc vous voyez, il y a clairement cette direction qui est la courbe de courbure maximale positive et puis cette direction qui traverse le col qui est la courbe de courbure maximale négative. Donc ça vous définit deux valeurs propres du tenseur de Ricci en un point donné. Vous faites le produit de ces deux valeurs propres, K1 et K2, et vous l'intégrez de manière orientée sur l'ensemble de la surface. Et le théorème de Gauss-Bonnet dit, alors ça c'est quelque chose qui va beaucoup nous servir dans la suite, ou tout au moins des analogues de ça vont beaucoup nous servir dans la suite, que l'intégrale du déterminant du tenseur de Ricci, intégrée sur la surface, divisée par 2π, est un invariant topologique qui est égal à 2 moins 2 fois le genre de la surface. Le genre de la surface, pour un physicien, on va dire que c'est en gros le nombre de poignées. Donc pour une sphère, c'est 0, pour un torse, c'est 1, pour un double torse, c'est 2, etc. Donc voilà les exemples qui sont ici. Et c'est très remarquable que, vous voyez que cette formule est vraiment très belle parce qu'elle relie une propriété locale intégrée sur l'ensemble de la variété à un invariant topologique global. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'ensemble de ce cours, en particulier avec bien sûr la courbure de Berry et son intégrale, qui est le nombre de Chern. Donc, c'est le point de vue, on va dire, invariance de certaines intégrales sur des variétés. Une autre manière d'explorer la topologie, alors là on entre un petit peu dans l'aspect... Comment est-ce qu'on peut utiliser des objets mathématiques pour caractériser la topologie globale d'une variété ? Donc une autre manière d'étudier la topologie qui va beaucoup nous servir dans la suite de ce cours, c'est de regarder un champ de vecteurs défini en chaque point d'une surface. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un fibré vectoriel. Ça va beaucoup nous servir. Je ne vais pas faire une théorie des fibrés vectoriels dans ce cours, mais c'est une notion qui va beaucoup nous servir dans la suite. Et vous êtes sûrement au courant de théorèmes fameux sur les champs de vecteurs définis sur des surfaces compactes. Ici, deux exemples, la sphère et le tore. Il est connu que sur une sphère, on ne peut pas définir un champ de vecteurs tangent qui soit non singulier sur l'ensemble de la sphère. C'est le fameux théorème qu'on ne peut pas peigner une sphère chevelue. En revanche, sur un tore, comme l'illustre ce dessin qui m'a été gracieusement fourni par ChatGPT, sur le tore, on peut le faire, comme vous le voyez, je pense, sur ce dessin. Et ça, vous voyez que tout à l'heure, on étudiait les invariances de certaines intégrales, l'intégrale de quantité locale. Ici, pour explorer la topologie d'une surface, ici, on étudie les propriétés d'un champ de vecteurs défini localement pour étudier les propriétés topologiques d'une surface. Donc, une autre manière de faire, c'est de regarder des objets tracés sur ces surfaces qui sont plus différents de champs de vecteurs. On peut par exemple tracer des lacets sur une sphère et constater que tous ces lacets sont contractibles en un point, alors que sur un tore, il y a évidemment des lacets contractibles, comme celui-ci, mais il y a des lacets non contractibles. Il y en a deux classes. Il y a ceux qui font le tour comme ça et ceux qui font le tour comme ceci. Et ces lacets ne sont pas contractibles. Donc il y a deux types de lacets non contractibles sur un tore. Donc voilà, de manière extrêmement rapide et illustrative, des exemples, disons, de questions topologiques. Et maintenant, je vais passer à une description rapide de l'effet Hall quantique entier. Et d'ici la fin de ce cours, vous devriez être en mesure de voir les connexions entre les constatations expérimentales liées à l'effet Hall quantique entier et des notions topologiques expliquant la robustesse de cette quantification. Donc l'effet Hall quantique entier. Alors la grande découverte, hein, c'est 1980, Klaus von Kinzig, ça lui a valu très rapidement le prix Nobel. Et c'est la découverte suivante, qui est d'ailleurs une découverte qui a été réalisée en partie dans le laboratoire de haut champ magnétique de Grenoble, il faut le rappeler, dans des gaz d'électrons bidimensionnels réalisés dans des MOSFET. On applique un champ magnétique et on mesure l'effet Hall. Donc je vais venir dans les transparents suivants vous parler un petit peu d'effet Hall, d'abord classique, puis bien sûr quantique. Et la découverte, c'est que la résistance de Hall se trouve quantifiée sous forme de paliers qui, à l'époque de cette découverte, sont quantifiés de manière entière. Plus précisément, la résistance de Hall rho xy, que je vais bientôt définir, c'est h sur e carré fois 1 sur 1 entier dans la découverte de von Kinzig, alors que la formule classique de l'effet Hall, qu'on va revoir tout de suite, c'est la résistance de Hall égale le champ magnétique sur la densité de l'électron fois la valeur absolue de la charge de l'électron. Alors, vous voyez que ces deux formules, donc la quantification entière de l'effet Hall et la formule classique, évidemment, elles coïncident dans le cas où la densité électronique est reliée au champ magnétique par cette expression ici qui fait intervenir le champ magnétique E et H, qu'on peut reformuler en disant que le nombre total d'électrons est un nombre entier fois le flux total traversant l'échantillon divisé par le quantum de flux H sur E. Donc ces deux formules, elles ne sont pas contradictoires l'une avec l'autre. Ce qui est, et elles, pour qui connaît les niveaux de Landau, elles appellent tout de suite l'idée que la quantification de cet effet Hall est liée au fait qu'on a un certain nombre entier de niveaux de Landau remplis. Ce qui est remarquable, c'est le fait qu'il s'agisse d'un palier qui est étendu quand on change le champ magnétique, et d'autre part que cette quantification, dont on peut deviner l'origine en comparant ces deux expressions, soit absolument robuste à la présence d'impuretés, à la présence d'interactions qui sont forcément présentes dans l'échantillon, peut-être faibles, mais en tout cas présentes. C'est ça qui est remarquable, c'est la précision de cette quantification. Et d'ailleurs, vous voyez que le titre de l'article de von Kinzig, Dorda et Pepper, c'est « New method for high accuracy determination of the fine structure constant ». Donc immédiatement, ce qui apparaît aux auteurs de cette découverte, c'est le fait que cette quantification extraordinairement précise de la conductance de Hall a des implications métrologiques. Et elle a tellement des applications métrologiques que, très rapidement, elle conduit à, dans un premier temps, une redéfinition du standard de l'ohm, de l'unité de résistance. Alors, la situation a un petit peu changé depuis les années 80, en fait, depuis le début du 21e siècle, puisque, je ne sais pas si vous savez ça, mais depuis 2019, le système international est basé sur une convention pour H, la constante de Planck, et E, la charge de l'électron. Donc, la constante de Planck, c'est ça, il n'y a plus de décimales après, c'est exactement ça. Et la charge de l'électron, c'est exactement ça. Voilà, ça, c'est le système international. Et du coup, la constante de von Kinzig, H sur E2, c'est quand même très beau d'avoir une constante en physique. Donc, von Kinzig a une constante, H sur E2, qui est la résistance de Hall au plateau entier nu égale 1, je l'ai mis, appelé P ici, mais c'est nu, est aussi exacte et constitue une définition de l'ohm. Vous divisez ces deux nombres l'un par l'autre, vous obtenez celui-ci, donc 25 kilo-ohm, en gros, avec plein de décimales. Toutes ces décimales sont exactes parce que ces deux choses sont exactes, et c'est ça la définition de la constante de von Klinsic. Donc, on peut dire que les dispositifs d'effet Hall quantique entier servent à maintenir les standards de l'ohm actuellement, et il y a par exemple au NIST, et j'imagine dans pas mal d'autres endroits de métrologie dans le monde, des dispositifs gaz d'électrons 2D qui fonctionnent en permanence pour monitorer la constante de von Klinsic. Alors l'histoire évidemment de l'effet quantique ne s'arrête pas là, puisque assez rapidement, en analysant, en faisant des expériences au laboratoire Bell Labs sur des gaz d'électrons plus propres, Stormer et Tsui découvrent d'autres paliers. Et ces autres paliers ne sont pas quantifiés avec un entier, mais avec une fraction. Donc ici, vous voyez, je crois que j'ai tiré ce graphe expérimental de la conférence Nobel de Dan Tsui. Donc vous voyez la résistance de Hall en fonction du champ magnétique. Donc ça, c'est bien... C'est un échantillon sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de paliers. Et donc, vous voyez un certain nombre de paliers entiers, comme celui-là, 1, 2, etc. Mais vous voyez aussi des paliers fractionnaires, comme par exemple celui-là, 2 tiers. Et ce graphe, il représente la conductance de Hall et la conductance ρxx. Et vous voyez que là, plus exactement, la résistance de Hall et la résistance ρxx. Et vous voyez que chaque fois qu'il y a un palier, à une très bonne précision, ρxx s'annule. Ce qui, évidemment, fait aussi penser à un transport non dissipatif protégé par un gap, ce qui est cohérent avec l'idée que, dans le cas de l'effet Hall quantique entier, on remplit complètement un niveau de Landau, mais la présence d'un gap dans le cas de l'effet Hall quantique fractionnaire et simplement le fait que ce soit fractionnaire a été très surprenant lors de la découverte de l'effet Hall quantique fractionnaire. Donc ça, c'est quelque chose dont je parlerai au cours 4. Donc pour résumer, un certain nombre de questions qui sont des questions troublantes et qui ont troublé tout le monde après la découverte de l'effet Hall quantique entier. Pourquoi un plateau étendu ? Pourquoi une quantification de la résistance de Hall aussi robuste vis-à-vis de la géométrie de l'échantillon, du désordre, des interactions ? Et toutes ces questions trouvent en gros leur réponse dans la constatation, enfin, quand on réalise que la conductance de Hall est un invariant topologique du système. Donc ça va être le but de la suite de ce cours. J'ai une heure pour en gros vous montrer ça. Alors pour faire ça, on va revenir aux bases. D'abord, je vais très rapidement sur ce slide vous rappeler l'effet Hall classique. Alors j'ai fait un choix en fait dans ce cours, c'est de faire au tableau, il va y avoir beaucoup de choses au tableau, de faire au tableau en gros tout ce qui est au cœur du cours, donc les aspects topologiques sont détaillés au tableau. En revanche, tout ce qui est, je dirais, du domaine de choses qu'on sait en physique par ailleurs, je vais le résumer sur des slides. Et donc, je suppose que vous êtes familier avec l'effet Hall dans sa version classique, mais je vous rappelle quand même les bases sur ces slides. Donc, dans l'effet Hall classique, on considère un morceau de conducteur, on lui applique, disons que ça c'est la direction X, on lui applique un champ électrique pour faire passer un courant, et en même temps, perpendiculairement à l'échantillon, on applique un champ magnétique. Alors, comme les trajectoires en présence d'un champ magnétique sont courbées, il va y avoir accumulation de charges sur les bords de l'échantillon. Donc ici, il va y avoir une augmentation de la densité électronique sur ce bord et puis un déficit de densité électronique ou une accumulation de trous sur l'autre bord. Ça va être un régime transitoire. Et puis, au bout d'un certain temps, évidemment qu'on ne peut pas avoir de courant qui sort comme ça, au bout d'un certain temps, ce qui va se passer, c'est que le champ électrique induit par cette polarisation de charge sur les deux bords va compenser le mouvement biaisé des électrons vers les bords, de manière à conserver un courant selon X. Et ça va nous relier la conductance de Hall au champ magnétique appliqué. Donc, pour comprendre ça, il suffit d'écrire une petite équation semi-classique à la Drude. Donc, on va écrire, par exemple, que l'accélération d'un électron, ça va être la force de Lorentz . Je commence par mettre des flèches sur les vecteurs, mais assez rapidement, je pense qu'elles vont disparaître. Et puis, disons, une force de friction avec un certain temps caractéristique de collision tau proportionnel à la vitesse. Et le régime stationnaire, c'est dvdt égale 0. Donc, ces deux équations, ça vous donne une équation pour le régime stationnaire qui est décomposée ici en composantes, donc selon x et selon y. Et vous voyez que pour assurer qu'il n'y a pas de courant transverse dans cette géométrie, il faut qu'il y ait une relation entre le champ électrique ou la tension de Hall selon la direction Y et le courant selon la direction X. Et c'est ça qui définit la résistance de Hall, ρ XY, c'est le rapport du champ électrique transverse divisé par le courant longitudinal, à un signe près, et vous voyez à travers cette équation, puisque J c'est moins NEV, d'accord, où N est la densité d'électrons, vous voyez que ça me dit que ρ XY, c'est le champ magnétique divisé par la densité d'électrons, divisé par la valeur absolue de la charge de l'électron. Alors, cette formule, elle est remarquable en elle-même, puisque vous voyez que le temps de diffusion des porteurs, le temps de scattering des porteurs, a complètement disparu. Et l'effet Hall est une manière standard en physique des semi-conducteurs d'estimer la densité de porteurs dans l'échantillon, indépendamment de la présence d'impureté ou d'interaction. Alors évidemment, pour des systèmes plus complexes, là c'est un gaz d'électrons 2D très simple, pour des systèmes plus complexes avec des bandes d'énergie, etc., cette formule devient plus compliquée. Pour un gaz d'électron 2D, elle sert à déterminer la densité d'électrons dans l'échantillon. En revanche, évidemment, si vous regardez l'autre composante de cette équation, celle selon X, vous trouvez la formule de Drude classique, la conductivité ici ρ xx et m sur n de taux, et elle dépend, elle, du taux de dissipation. Alors, quelques remarques de plus sur cet effet Hall. Donc, de manière générale, s'il y a un champ selon X, un champ selon Y, la conductivité est définie par un tenseur de conductivité qui relie les courants aux conductivités, donc sigma XX, sigma YY. Il y a une relation de Hornsager qui relie sigma XY et sigma YX. Et je peux réécrire ce tenseur de conductivité sur une forme qui est quelquefois utile, qui est que le tenseur de conductivité ρ, c'est 1 sur la conductivité de Drude, donc la conductivité de Drude, ça va être n de taux sur m, fois 1, oméga c taux moins oméga c taux et 1, où j'ai introduit la pulsation cyclotron qui va nous servir beaucoup dans ce cours, qui est b sur m. Il y a une limite qui est intéressante, qui est la limite tau tend vers l'infini. Donc, disons la limite où il n'y aurait pas de collision, pas de dissipation. Alors, vous voyez que dans cette limite, l'inversion de la matrice de conductivité, elle est assez intéressante parce qu'elle vous dit que ρ xx, c'est sigma xx sur sigma xx carré moins sigma xy, sigma yx. Et donc, en présence d'une conductivité de Hall, on peut avoir simultanément ρ xx égale 0 et sigma xx égale 0. Ça demande un tout petit peu de réflexion pour se familiariser avec cette idée. Donc, dans cette limite, le tenseur de conductivité, c'est 0 sigma xy moins sigma xy,
0, avec également rho xx égale sigma xx égale 0. Et dans cette limite, le transport est purement transverse, jx, c'est sigma xy, ey, jy, c'est moins sigma xy, ex. Donc les courants sont perpendiculaires au champ magnétique appliqué. Donc voilà en gros tout ce que je vais avoir besoin de dire sur l'effet classique, chose très, très bien connue. Et maintenant, on va passer à l'effet quantique. Et la première chose à faire, puisqu'il y a de manière assez évidente l'idée qu'on remplit les niveaux de Landau, c'est de faire des rappels sur les niveaux de Landau. Donc là, je vais en faire une partie au tableau, mais je vais quand même mettre les notions essentielles au tableau. Donc, pour parler de niveau de Landau, donc maintenant on regarde le problème classique de Landau, qui est quels sont les niveaux d'énergie en présence d'un champ magnétique dans un échantillon. Donc, quelques rappels. Je vais en faire une partie au tableau, mais je vous mets quelques notions essentielles ici. Donc d'abord, il y a des quantités importantes à définir. Donc la pulsation cyclotron, EB sur M, on l'a déjà vu. La longueur magnétique, qui est racine de H bar sur EB, on va voir ça dans un instant, et le quantum de flux H sur E. Alors pour vous donner un petit peu une idée des ordres de grandeur, pour un champ magnétique d'un Tesla, le oméga C, c'est 1,76 Hz, et L, la longueur magnétique, c'est de l'ordre d'une dizaine de nanomètres. Alors, comme vous le savez, je pense tous et toutes, les niveaux de Landau sont quantifiés en unité de H bar oméga C, où oméga C est la pulsation cyclotron, sous la forme de N plus 1,5 H bar oméga C, parce qu'il y a un oscillateur harmonique qui se cache là-dedans, et chaque niveau de Landau a une dégénérescence macroscopique, et ça, c'est la notion essentielle, c'est-à-dire qu'il y a une infinité d'états dans la limite d'un grand système. On a un niveau complètement plat, mais avec une densité macroscopique de dégénérescence. Le nombre d'états dans un échantillon de surface A, alors j'ai appelé dans tout ce cours la surface A et pas S, parce que S peut être l'élément de longueur dans une courbe, donc je ne veux pas le confondre avec A. Donc j'ai fait cet anglicisme. Le nombre d'états, c'est le flux total traversant l'échantillon divisé par le quantum de flux. Je vais vous montrer ça au tableau dans quelques instants. De sorte que la dégénérescence du niveau de Landau par unité de surface, c'est le champ magnétique divisé par le quantum de flux. Et vous voyez que dans ce contexte, le facteur de remplissage, qu'on peut définir comme le nombre d'électrons divisé par le nombre d'états, c'est la densité électronique 2D, donc si je divise simplement par la surface ici, c'est la densité électronique de mon gaz divisée par la dégénérescence par unité de surface, et c'est quelque chose qui s'exprime de manière intuitive comme directement lié au nombre de quantum de flux qui traversent l'échantillon, et ça me dit aussi que ce feeling factor, il est égal à la densité électronique fois une surface caractéristique qui est en gros la taille occupée par chaque niveau, par chaque état quantique dans mon niveau de Landau infiniment dégénéré qui occupe une place 2πL2. Donc c'est différentes manières de regarder le facteur de remplissage qui sont utiles. Alors donc je vais quand même vous faire redériver les niveaux de Landau au tableau assez vite, parce que c'est important. Il y a deux manières, enfin il y a pas mal, autant de manières que vous avez de choix de jauge, mais il y a deux choix de jauge qui sont très habituels. L'un qui est la jauge de Landau, qui est une jauge dissymétrique. Donc dans la jauge de Landau, on met le potentiel vecteur dont on dérive le champ magnétique selon la direction y, et le potentiel vecteur varie linéairement en x. Dans ce cas-là, évidemment, on a invariance par translation selon y, donc on a un moment conservé selon y, ce qui n'est pas le cas selon x. Et les fonctions d'onde ont une tête dissymétrique, elles sont une onde plane dans la direction y, puisqu'il y a l'invariance par translation, fois une fonction d'onde de l'oscillateur harmonique centrée autour d'un guiding center, disons, qui est proportionnel au moment selon la direction Y fois le carré de la longueur magnétique. Alors moi personnellement j'aime pas beaucoup la jauge de Landau, elle n'est pas très symétrique, donc ce que je vais vous faire au tableau c'est la jauge symétrique où on met le potentiel vecteur à la fois selon l'X et Y avec un potentiel vecteur qui est B sur 2 moins Y X 0 et je vais maintenant vous montrer rapidement au tableau cette chose magnifique que si je regarde le niveau de Landau le plus bas, donc celui avec n égale 0, eh bien, toute fonction analytique f de z fois le facteur exponentiel moins module de z2 sur 4L2 est un état propre. Donc on va faire ça au tableau un peu vite parce que c'est quand même des choses, on va dire, classiques. Donc, niveau de Landau dans la jauge symétrique. Je ne vais pas tout vous détailler, hein, parce que c'est quand même des choses très classiques. Je prends un potentiel vecteur qui est B sur 2 moins Y X 0. Le champ magnétique qui est le rotationnel de A va être selon Z. Et l'hamiltonien du système, donc hamiltonien à un corps, hein, pour un électron de masse m, c'est 1 sur 2m, fois substitution de Peierls pour p moins qa, moins eb sur 2 y au carré, plus py plus eb sur 2 x au carré. Voilà mon hamiltonien. Alors vous voyez que l'impulsion généralisée pi, c'est P moins QA. J'utilise toujours des conventions où la charge de l'électron Q est moins E. Ça dépend un peu des livres, mais je trouve ça plus commode. Donc ça, ça devient P plus EA. Et on regarde l'algèbre des impulsions généralisées pi. Donc cette algèbre, c'est PX, PY. Vous pouvez facilement calculer PX, PY. Je ne vous fais pas le calcul en détail. En utilisant les règles de commutation de X et de P, vous trouvez que PX, PY, c'est moins I H bar EB. Et vous pouvez diagonaliser cet hamiltonien en introduisant un opérateur de création A, qui est 1 sur racine de 2 H bar EB fois PX moins I PY. Et son collègue A croix, qui est juste la même chose avec plus. Et quand vous calculez tout ça, vous trouvez que H, l'hamiltonien que j'ai écrit, en utilisant les règles de commutation, c'est égal à 1 sur 2 H bar EB, fois, alors, donc vous voyez là-bas, PX carré plus PY carré, par ailleurs, A croix 1, c'est 1 sur 2 H bar EB fois PX carré plus PY carré moins I fois le commutateur de PX et PY. Mon pi devient de plus en plus petit au fur et à mesure que j'écris. Et ce terme ici vaut moins H bar EB. De sorte que finalement, l'hamiltonien du système devient H bar oméga C, A croix A plus 1,5. D'où le niveau de Landau, En, H bar oméga C, N plus 1,5. Alors, on a donc caractérisé les niveaux d'énergie. Maintenant, il s'agit de caractériser leur dégénérescence. Et dans la jauge de Landau, pardon, dans la jauge symétrique, ces dégénérescences ont une interprétation très simple, qui est le moment angulaire, qui qui est un moment angulaire en fait. Et pour voir ça, il est intéressant d'introduire un autre objet, un autre opérateur, on va l'appeler pi tilde, qui est non pas p moins ea, mais p plus qa. Donc p moins ea. Alors, bien entendu, pi, ces objets-là, ne commutent pas avec la Hamiltonien, donc en général, vous ne pouvez pas diagonaliser simultanément. Mais il se trouve que dans la jauge symétrique, on a une commutation, et donc on peut faire une diagonalisation simultanée de h et de pi tilde. Alors pour ça, on copie exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On introduit maintenant un opérateur B qui est 1 sur racine de 2h bar EB pi tilde x plus pi tilde y et son collègue B croix. Et on observe que B croix est égal à 1. De sorte que dans la jauge symétrique, il va falloir que je fasse quelque chose là. Récupérer mon aimant. Le champ magnétique ne doit pas être assez fort. Voilà, vous m'entendez encore? Oui. Donc, dans la jauge symétrique, les états propres sont des états propres qui sont des tours en A croix et en B croix. Donc, c'est des états du type A croix n sur racine de factoriel n, b croix m sur racine de factoriel n. Et donc vous voyez que si je fixe par exemple n égale 0, qui est le premier niveau de Landau, la dégénérescence consiste à augmenter m, et on va la compter dans quelques instants. Alors, comment est-ce que je vais compter ça? Je vais d'abord dériver une forme un peu plus générale, un peu plus explicite des fonctions d'onde. Et je vais me focaliser par simplicité sur le premier niveau de Landau. Dans ce cours, je vais en gros jamais considérer les effets Hall quantiques liés au niveau de Landau supérieur. Donc le premier niveau de Landau, c'est celui qui est annihile A. Donc c'est les états qui satisfont à cette condition. Alors cette condition, elle peut être convertie en une équation différentielle. Vous rappelant que A, c'est 1 sur racine de 2h bar EB fois pi x moins i pi y cette expression, c'est cette racine fois px moins i pi py plus e ax moins i ay . Je remplace, tout ça c'est des opérateurs bien sûr, je remplace ici P par son opérateur, donc c'est 1 sur racine de 2h bar EB, fois P c'est h bar sur i gradient, d'accord, donc moins i h bar dx moins i dy dx, par souci de compacité, c'est d sur dx, moins i, moins eb, sur 2, i, x moins y. Donc là, j'ai utilisé l'expression du potentiel vecteur dans la jauge symétrique. Et vous voyez qu'il devient très naturel d'introduire une coordonnée complexe dans le plan 2D, z, que je vais choisir comme x moins y. Donc il est utile d'introduire le plan complexe.
Alors, petit intermezzo, si je considère une fonction f qui va dépendre de z et de son complexe conjugué. Donc, une fonction f qui dépend de x moins y et de x plus y, en prenant les dérivés de cette fonction, vous pouvez facilement vérifier que dxf, c'est dz plus dz bar f, et dx et dyf, c'est moins i dzf plus i dz bar f. De sorte que le dx moins idy qui est ici, c'est 2dz. Autrement dit, cette équation qui est là, a égale 0, a agissant sur l'état égale 0, je peux la transformer en équation différentielle. Et cette équation différentielle, en réexprimant la racine carrée qui est là-bas, et en mettant les choses de manière sans dimension, elle devient L dz bar f plus 1 sur 4L, où L est la longueur magnétique qui est là-haut, fois zf égale 0, que vous pouvez très facilement intégrer en f de zz bar égale une fonction analytique quelconque de z seulement fois exponentielle de moins module de z carré sur 4L2. Donc ça, c'est la solution générale d'un état propre dans le premier niveau de Landau. Et vous voyez que la beauté de la chose, c'est que toute fonction analytique, vous pouvez mettre ici n'importe quelle fonction analytique qui ne dépend que de la coordonnée z, et vous avez un état propre du problème. Alors, évidemment, une base commode, c'est celle qui diagonalise B croix B. Donc c'est des états du type z puissance m. Alors on peut les normaliser, on peut disons z sur l puissance m pour mettre les choses sans dimension, moins module carré de z sur 4L2, avec une normalisation ici qui est compliquée, que j'écris pas. Et il est facile de voir en minimisant, en faisant passer ça dans l'exponentielle et en minimisant l'argument, qu'en gros il s'agit d'un état qui est localisé sur une couronne de rayons L, plus précisément de rayons racine de 2m L. Donc vous voyez que la taille de la fonction d'onde, la distance à laquelle pique la fonction d'onde augmente avec ce moment cinétique m. Et pour compter le nombre d'états dans le système, donc on va l'appeler n curly comme ça, le nombre d'états dans le système, c'est simplement la somme sur tous les m tels que m soit plus petit que le rayon maximal où on peut aller, hein, qui va donc être R2 sur 2L2. De 1, chaque état est dégénéré une fois, chaque état de moment cinétique est dégénéré une fois. Donc ça, c'est égal à R2 sur 2L2, où R est le rayon de mon échantillon ayant la forme d'un disque. Et par conséquent, N sur pi R2, qui est l'aire du système, donc qui est N sur A, qui est ma dégénérescence par unité de surface G, est égal à 1 sur 2πL2. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chaque état occupe en gros une surface de πL2 qui est également égale au champ magnétique exprimé en unité du quantum de flux φ0 égale H sur E.
Vous voyez que le nombre d'états, c'est le flux total dans l'échantillon en unité du nombre du quantum de flux. Bon, alors, je ne vais pas arriver à tenir le rythme que j'avais prévu, bien entendu. Donc maintenant, on a les niveaux de Landau. On a cette idée que l'effet quantique entier se produit quand on a un nombre entier de niveaux de Landau remplis. Ça correspond bien, avec tout ce que j'ai raconté là, au fait que le facteur de remplissage est entier. Et ce qu'on veut, c'est relier ça à une notion topologique. Alors, pour faire ça, il va me falloir trois ingrédients. Le premier ingrédient, c'est une expression générale de la conductivité pour un système quantique. Et ça, c'est la formule de Kubo. Donc, encore une fois, le point de vue que je suis dans ce cours, c'est de ne pas dériver de manière détaillée tout ce qui n'est pas directement lié aux notions topologiques. Donc, je vais vous demander d'accepter la formule de Kubo et la réponse linéaire. Je vais y consacrer un slide. Le deuxième ingrédient, ça va être de placer le système sur une variété qui est commode pour analyser le système. En l'occurrence, ça va être regarder les folles quantiques sur un tore. Alors, pour un système de grand volume, le système sur lequel la géométrie du système sur lequel on regarde, j'ai le droit de regarder le système sur un tore. Pour les numériciens, ça voudrait dire regarder le système avec des conditions doublement périodiques au bord. Et le troisième ingrédient, ça va être de réaliser que la conductance de Hall est reliée à un invariant topologique. Donc la conductance de Hall que j'ai exprimée en termes de la formule de Kubo va être reliée à un invariant topologique des fonctions d'onde sur ce tore. Donc c'est un peu ce programme que je voudrais dérouler maintenant. Alors cette interprétation topologique de l'effet Hall quantique entier, c'est quelque chose qui a une histoire qui est un peu contourné en réalité. Le premier article qui relie un invariant topologique à la conductance de Hall, c'est l'article de Thaules, Komoto, Nightingale et Denice, mais qui se place sur le réseau et qui dérive des expressions pour la conductance de Hall en fonction de des fonctions d'onde à un corps du système. Donc c'est un système sans interaction. Ça sera l'objet du cours de tout à l'heure. Enfin, si j'y arrive. Pas sûr. Et puis, mais dans cet article, de manière remarquable, il n'y a pas de mention de la phase de Berry. Assez rapidement, la connexion entre les articles de Berry, qui évidemment aussi un héritage de la phase de Zach, etc., et cet argument de quantification devient plus clair. Et je pense que le premier article qui établit de manière vraiment magnifique la connexion entre la conductance de Hall et un invariant topologique à n corps, donc la phase de Berry en fait pour la fonction d'onde à n corps du système, c'est l'article de New, Thaules et Wu qui est ici, ou article relié, donc milieu des années 80. Et très rapidement, des gens plutôt du côté de la physique mathématique s'intéressent au sujet. Donc il y a un bel article de Avron, Seiler et Simon. Puis des articles de Bélissard et collègues, toujours Avron et Seiler. Donc j'ai mis un certain nombre de références ici. Vous allez voir que dans cette démonstration de la connexion entre la conductance de Hall et la phase de Berry de la fonction d'onde à n corps, il y a une étape un peu intéressante qui consiste à intégrer sur les conditions de bord. Et ça a attendu pas mal d'années pour être vraiment prouvé de manière rigoureuse. C'est un article de Hastings et Michalakis qui prouve cette étape-là de manière finale en 2015. Donc voilà, j'ai essayé de reconstituer un petit peu une historique qui n'est pas forcément tout à fait exacte, mais qui vous donne au moins des références. Alors, je vous ai promis que je n'allais pas vous dériver la formule de Kubot, donc voilà le transparent qui a ce but. Donc, la formule de Kubot, j'en ai parlé dans des cours précédents, au cours des années précédentes, elle consiste à établir, par la théorie de la réponse linéaire, une relation entre la conductivité et le corrélateur courant-courant. Donc ça, c'est une notion extrêmement générale, qui est que, en physique, la réponse linéaire à une perturbation est toujours liée, quand cette perturbation est petite, au premier ordre, à un corrélateur de cette perturbation. Donc, la manière, donc je vous renvoie par exemple au livre de Mehan pour une dérivation complète. La manière la plus simple de faire ça, qui pose le moins de soucis, c'est d'introduire un champ électrique, peut dépendre du temps par exemple, comme la dérivée par rapport au temps d'un potentiel vecteur. L'autre approche, ça serait évidemment de mettre explicitement un potentiel scalaire et le gradient d'un potentiel scalaire, mais cette approche, elle conduit à pas mal de subtilité, dans la mesure où on perd l'invariance par translation, et ça devient un peu compliqué, la question de l'équilibration des réservoirs dans ce cas-là. Donc ça, c'est la manière la plus simple. On applique donc cette perturbation, qui est une perturbation dépendant du temps, on applique la théorie de la réponse linéaire, et on trouve que les coefficients de réponse sont liés au corrélateur courant-courant. Alors ici, densité de courant, densité de courant. Donc la conductivité, ici à Q égale 0, en fonction de la fréquence, il y a un terme diamagnétique que je ne vais pas commenter, et puis il y a un terme qui fait intervenir la transformée de Fourier du corrélateur courant-courant, plus exactement de son commutateur, c'est-à-dire du corrélateur retardé courant-courant, divisé par la fréquence et divisé par A, qui est simplement l'aire de l'échantillon. Donc, vous voyez que si j'exprime cette expression en termes du courant total, c'est-à-dire de l'intégrale sur l'espace de la densité de courant, ça devient tout simplement ça, la partie réelle de la conductivité, c'est 1 sur la surface, 1 sur la fréquence, fois la transformée de Fourier du commutateur courant total, courant total. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est insérer dans ce commutateur un ensemble complet d'états. Donc là, j'insiste, c'est les vrais états propres du système à n corps. Hein, ce ne sont pas les états à un corps, que j'ai appelé n ici, rien à voir avec les n des niveaux de Landau. Hein. Donc c'est les vraies fonctions d'onde à n corps. Vous insérez dans ce commutateur et vous prenez délicatement la limite oméga tend vers 0. J'ai des notes là-dessus que je mettrai sur le site web. Tout ça est détaillé. Et ce que vous obtenez finalement, c'est cette expression, où la conductance de Hall est égale à cette forme antisymétrique des éléments de matrice du courant. Donc ici, c'est une notation un peu compacte où J0N, c'est Psi0 l'état fondamental, c'est l'élément de matrice du courant pris entre l'état fondamental et un autre état excité, divisé par le carré du dénominateur d'énergie. Voilà, donc ça, c'est une expression complètement générale de la conductance de Hall pour un système qui peut avoir des interactions, des impuretés, en termes des états à n corps du système. Et je n'ai pas l'intention de vous le démontrer plus en détail que cette description un peu high level. Donc je vous réfère aux notes de cours qui seront sur le site. Donc on va considérer cette formule comme acquise, et je voudrais également préciser quelques notations qui ont une certaine importance pour ne pas trop se perdre dans les facteurs. Donc voilà quelques précisions sur la manière dont les courants sont définis et leurs dimensions. Donc j'ai parlé plusieurs fois de la densité de courant. Donc la densité de courant, ça va être la charge de l'électron fois la vitesse fois la densité de porteur par unité de surface. Donc en dimension D, ça serait par unité de volume, et c'est quelque chose qui a cette dimension, dimension d'une charge électrique, fois L puissance 1 moins D, puisqu'il y a un L ici, un L puissance moins D ici, divisé par un temps. Je peux considérer le courant total, qui est l'intégrale de cette quantité sur l'ensemble du système, qui a maintenant cette dimension, il n'y a plus de L puissance D. Je peux considérer l'intensité qui traverse une surface perpendiculaire à la, ou pas perpendiculaire, mais enfin, disons, transverse à la direction du courant. Donc là, on intègre sur D-1 direction, donc ça acquiert cette dimension-là. Donc évidemment, c'est une charge électrique par un temps, hein, c'est des ampères, l'intensité de courant. Et du coup, la conductivité est définie comme la relation linéaire entre la densité de courant et le champ électrique. Et donc, vous voyez que la conductivité, elle a pour dimension E carré sur H. H, c'est une énergie par un temps, fois L puissance 2 moins D. Et si vous utilisez les définitions qui sont là, vous voyez aussi que la conductance, donc l'inverse de la résistance R, relie l'intensité définie comme ceci à la différence de potentiel par U égale RI. Et la conductance G, l'inverse de la résistance, à dimension E carré sur H, on a déjà vu que c'était le quantum de conductance. Et donc vous voyez ce fait bien connu qu'en deux dimensions, une conductivité et une conductance ont la même dimension. Donc dans la suite du cours, j'utiliserai souvent la densité de courant et le courant total, quelquefois l'intensité, mais je tenais à préciser ces définitions pour que tout soit le plus clair possible. Alors, comme je vous le disais, ce qu'on va faire maintenant, c'est de placer mon système d'effets quantiques sur un tore. Alors ça, c'est une vision de théoricien, bien sûr. On ne va pas faire une manip torique. Mais autrement dit, on va prendre un échantillon rectangulaire, disons de dimension Lx, Ly. Et on va lui appliquer des conditions de bord périodiques. On identifie les directions comme ceci et les directions comme ceci, ce qu'on ferait très naturellement dans une simulation numérique, par exemple. Et ça va nous donner une géométrie torique. Et bien sûr, on va prendre la limite d'un grand volume. Alors, pour faire ça, il y a quelques subtilités que je ne vais pas non plus vraiment détailler parce que je n'ai pas trop le temps. Mais en fait, pour que ce problème soit bien défini, il faut que le flux total qui traverse cet échantillon rectangulaire soit un nombre entier du nombre de quantum de flux, sinon on a des problèmes avec les conditions au bord. Donc vous voyez que ça me définit un tore dans l'espace des paramètres, et on peut voir, si vous voulez, les angles sur ce tore comme étant le rapport du flux selon x. Alors je vais insérer un flux dans la... J'ai dit tout à l'heure qu'un tore, ça avait deux cycles, les cycles comme ça et les cycles comme ça, donc je vais insérer un flux dans ces deux cycles. Celui qui est comme ça, je l'appelle phi x. Celui qui est comme ça, il va s'appeler phi y. Et ça me définit deux angles qui sont 2π fois phi x en unité du quantum de flux et 2π fois phi y en unité du quantum de flux. Ça va être la géométrie qu'on va considérer. Et le but du jeu, ça va être de relier la formule de Kubo à l'expression d'une quantité qui est la phase de Berry, enfin qui est reliée à la courbure de Berry des fonctions d'onde. Sur ce tore, des fonctions d'onde à n corps, des vraies fonctions d'onde du système. Alors j'ai prononcé le mot fatidique, qui est le mot courbure de Berry, et donc le reste des 20 minutes de ce cours va être consacré à définir ce qu'est la phase de Berry, la connexion de Berry et la courbure de Berry. Et ça va être au tableau. Donc vous pouvez voir ça comme une sorte d'intermezzo qui n'a a priori rien à voir avec l'effet Hall quantique. On va revenir à de la bonne vieille mécanique quantique. Et la connexion entre les deux devrait apparaître vers la fin du cours. Donc une manière de considérer le problème de la phase de Berry qui suit en fait essentiellement les articles historiques de Michael Berry, c'est de considérer la manière dont un état quantique change quand l'Hamiltonien dépend d'un paramètre et de suivre l'évolution des fonctions d'onde en fonction de ce paramètre. Donc on va considérer donc Berry phase, Berry connection et courbure de Berry.
On va considérer un Hamiltonien, peu importe ce qu'il est, qui va dépendre d'un ensemble de paramètres lambda, lambda A. Et son équation de Schrödinger associée, donc qui va être IH bar. H bar va de temps en temps être mis à 1 dans mes, au tableau, je pense. Donc H dépend de lambda. Et on va considérer que ces paramètres dépendent du temps, de manière suffisamment adiabatique pour qu'on puisse suivre un certain état propre. Alors évidemment, quand on suit un certain état propre, la question est de savoir comment on suit sa phase. Et donc on va se donner pour chaque valeur du temps, on va se donner un état quantique de référence dont on va fixer la phase. Avec un certain choix de phase. Et cet état quantique de référence, je vais l'appeler N de lambda. Donc, N de lambda, c'est un état propre de H. Avec une énergie En et un choix de phase donné. Donc je suppose que je vais avoir une évolution adiabatique du système où je peux suivre un état propre donné, donc ça suppose qu'il n'y a pas de croisement de niveau. Les conditions pour que cette hypothèse adiabatique soit correcte, je ne vais pas les détailler, vous pouvez regarder les deux cours de Jean Dalibard qui sont consacré à la topologie, dans lesquelles il y a une discussion très détaillée des conditions d'adiabaticité par rapport à la distance avec le premier niveau excité, par exemple. Et donc, je vais supposer que je peux suivre cet état adiabatiquement. Je vais écrire ma fonction d'onde comme mon état de référence que je suis fois une phase peut changer au cours du temps. Donc on va prendre cette expression, on va l'insérer dans l'équation de Schrödinger. Quand vous faites ça, vous trouvez l'équation suivante, IH bar dT psi. Alors il y a deux termes, il y a un terme qui vient de la dérivée de la phase, moins H bar phi point exponentielle I phi n. Et puis il y a un terme qui vient du fait que les paramètres de mon Hamiltonien dépendent du temps, donc IH bar lambda point exponentielle phi d lambda n. Donc d lambda n, c'est la manière dont mon état de référence change quand je change le paramètre lambda de l'Hamiltonien. Et on va projeter cette expression sur n. Pour trouver une expression pour la dérivée de la phase, vous voyez ce que vous obtenez, c'est que phi point, c'est égal à I lambda point N d lambda N, moins 1 sur H bar EN de lambda. Ça, c'est l'expression clé qui me donne l'évolution de la phase avec le temps. Donc, vous voyez que dans cette expression, il y a deux termes. Il y a le terme que vous auriez naïvement deviné, qui est juste l'évolution habituelle exponentielle de moins i sur h bar et des états propres. Et puis, il y a un terme qui est le terme supplémentaire qui décrit la manière dont mon état de référence pour une valeur lambda des paramètres à tourner quand je change lambda en lambda plus d lambda. Et ça, c'est la phase du Berry du système. Donc il y a la phase, j'intègre cette équation, la phase totale phi de t. Elle contient deux termes, la phase dynamique habituelle, moins 1 sur h bar intégrale de 0 à t dt prime de En pris pour les valeurs du paramètre à t prime plus i fois l'intégrale de lambda de 0 à lambda de t d lambda de n d lambda n. Ce terme ici, c'est la phase de Berry que le système a prise dans l'évolution adiabatique des paramètres. Et en particulier, vous voyez que je peux considérer un contour fermé d'évolution. Donc si je fais une certaine évolution de mes paramètres et que je reviens à la même valeur, le système a pris une phase globale qui n'est pas nulle, qui est l'intégrale sur ce contour fermé pour une évolution sur un contour C, disons, qui va être i fois l'intégrale sur C d lambda de n dn sur d lambda. Alors ceci amène à définir la connexion de Berry. Pour chaque composante des paramètres lambda A, A, indice A de lambda, qui va être I, N, pris pour lambda, DN sur D lambda. Et cette connexion de Berry, vous pouvez la voir comme un potentiel vecteur dans l'espace des paramètres. Donc vous avez votre espace des paramètres et cette connexion de Berry vous dit comment les états propres changent quand on change comment la phase des états propres change quand on change les paramètres de manière infinitésimale, mais en termes peut-être de physicien, vous pouvez le voir comme un potentiel vecteur dans l'espace des paramètres. Évidemment, on peut faire une chose qui est de changer notre référence pour les états n, puisqu'ils sont définis à une phase près. On pourrait par exemple faire un changement de phase oméga de lambda de n. Et si vous insérez cette expression dans celle-ci, vous voyez que ça change la connexion de Berry par une pure transformation de jauge, la dérivée de mon changement de phase oméga. Donc il s'agit bien d'un champ de jauge qui se transforme par transformation de jauge de cette manière. Alors maintenant qu'on a ce champ de jauge ou cette connexion, on peut définir les champs associés, si vous voulez, qui est la courbure de Berry, qui est un tenseur. Qu'on va définir comme en électromagnétisme, FAB, ça va être DAAB moins DB AA. Et si vous insérez l'expression qui est là-bas, vous allez trouver que FAB, c'est moins 2i, c'est, je peux l'écrire comme moins 2 fois la partie imaginaire de DAN. DBN, le produit scalaire entre les deux dérivés des états de référence dans un changement infinitésimal des paramètres. Alors, pour ceux qui aiment un peu la géométrie différentielle, Q
clairement, ça, c'est une forme différentielle de degré 1. Donc, on peut former somme sur A de AA d lambda A, qui va être dA. Et ça, c'est une forme différentielle de degré 2, qui est antisymétrique. Donc, somme sur AB, peut-être avec 1/2 de FAB d lambda A. Alors, vous voyez que pour définir correctement cette forme différentielle, il faut avoir un élément infinitésimal ici qui est antisymétrique. Donc en pratique, ça va vouloir dire que quand on va intégrer la courbure de Berry sur une surface, il faut orienter l'élément d'intégration selon, par exemple, la normale extérieure. Parce qu'évidemment, si vous intégrez naïvement d lambda, cette forme est antisymétrique, cette forme est symétrique, vous allez trouver zéro. Alors, quelle est la bonne... j'ai dérivé la phase de Berry en suivant à peu près, les arguments historiques de Berry. Quel est en fait le formalisme mathématique sous-jacent? Donc, vous voyez qu'en fait, le formalisme mathématique sous-jacent, c'est que pour chaque point de ma surface dans l'espace des paramètres, on a défini un espace vectoriel d'état. Je vais essayer de faire un petit dessin. Donc imaginez que mes paramètres lambda varient sur une certaine surface. En un point donné de cette surface, j'ai défini un espace vectoriel à une dimension qui est généré par mon état propre n en ce point. Je peux faire un dessin de ce type si vous voulez. Ça, c'est en chaque point de ma surface de paramètres, j'attache un espace vectoriel unidimensionnel qui est généré par l'état propre n en ce point. Alors pourquoi je dis un état unidimensionnel? Parce que, évidemment, cet espace, il contient toutes les fonctions d'onde qui sont de la forme exponentielle phi n. Donc il y a une invariance U1 qui définit cet espace vectoriel à une dimension. Cette construction où à chaque point d'une surface, on attache un espace vectoriel, ça s'appelle un fibré vectoriel. Je vais l'écrire en anglais, fiber bundle. En français, fibré vectoriel. Et ça, c'est la fibre. Donc, en l'occurrence, c'est un fibré vectoriel U1. Ça, c'est la fibre. Et cette fibre se déplace pour chaque point de la surface d'une nouvelle fibre. Alors, je peux m'intéresser à la manière dont un état donné change quand je me déplace dans cet espace. Et vous voyez qu'un état donné, je peux décomposer son changement de la manière suivante. Le changement du vecteur n, il a une composante qui est parallèle à la fibre, qui est n dn. Donc je prends le changement dn, je le projette sur n. Et puis il a un changement qui est perpendiculaire à la fibre. Donc je mets le projecteur qui m'enlève de la fibre, dn. Alors en termes, les mathématiciens aiment appeler le changement le long de la fibre verticale. Pourquoi pas, effectivement, comme ça. Et le changement perpendiculaire à la fibre horizontale. Le transport parallèle d'un vecteur
c'est la condition que le changement est purement horizontal, c'est-à-dire purement perpendiculaire à la fibre. Donc ça, c'est un peu confusionnant. Vous pourriez penser qu'on appelle transport parallèle le transport parallèlement à la fibre. Ben non, c'est l'inverse. Donc le transport parallèle, c'est le transport horizontal. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'un vecteur est transporté parallèlement quand on se promène sur cette surface? Ça veut dire que on repère uniquement le changement intrinsèque de ce vecteur et pas la torsion qui serait liée à un changement de phase du vecteur le long de sa fibre. Donc vous pouvez voir ça par analogie, mais qui peut être un peu confusionnante aussi, comme le transport parallèle d'un vecteur sur une sphère, en imposant que quand vous transportez ce vecteur, il n'y ait pas de torsion du repère tangent qui se promène le long du vecteur, mais que le repère se transporte purement parallèlement, sans torsion. Bon, voilà, donc le bon formalisme de tout ça, c'est celui d'un fibré vectoriel, en l'occurrence un fibré vectoriel U1. Et ce fibré vectoriel peut avoir une topologie triviale ou non. Et c'est ça que la courbure de Berry va nous permettre de caractériser. Alors, je voudrais insister sur le fait qu'ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini ce fibré vectoriel en prenant en chaque point une fibre qui est cette fibre U1 définie par un changement de phase. Vous pourriez aussi considérer le fibré complet où en chaque point, vous considérez l'espace de Hilbert complet du problème. Et ça, comme on va le voir dans le cours suivant, c'est toujours un espace topologique trivial. En revanche, si vous avez un espace où la fibre est associée à un état propre, donné en un point, donné des paramètres, là, il peut y avoir une topologie non triviale. On va le relier au fait que quand on somme la courbure de Berry sur toutes les bandes d'énergie d'un système, on trouve nécessairement zéro. Alors, avant la pause, donc je suis un petit peu en retard, mais je vais quand même prendre quelques minutes pour finir le point clé qui va nous permettre de connecter à Kubo. Qui est d'exprimer la courbure de Berry, le tenseur de courbure de Berry qui est là, en termes des états propres du système. Donc, courbure de Berry. Decomposed over states. Donc ça, c'est très simple. Il suffit pour ça d'insérer un ensemble complet d'états. Donc, maintenant, de nouveau, les N ici, c'est vraiment, je vais l'écrire une seule fois sous cette forme, c'est vraiment les états complets de l'Hamiltonien H, qui peut être un Hamiltonien à N corps, avec des interactions, du désordre, tout ce que vous voulez. Donc j'introduis un ensemble complet d'états. Là, ils s'appellent psi n, mais rapidement, ils vont s'appeler n, parce que c'est trop lourd. Donc, j'ai cette équation. Je vais différencier cette équation. Donc, les h dépendent toujours de mes paramètres lambda, ainsi que les psi, bien sûr. Je différencie cette équation. Je trouve dAh n plus h dAn égale dAen. La dérivée de l'énergie propre, N, plus En, dAn. Maintenant, je vais projeter cette équation sur le vecteur N. Et je trouve que la relation bien connue que la variation de l'énergie au premier ordre, c'est l'élément de matrice de la perturbation dans l'état considéré,
théorie de perturbation au premier ordre. Et maintenant, je vais projeter cette équation sur les autres états propres différents de n, donc m différent de n. Et je trouve quoi? Je trouve en moins em. Vous voyez ici, si je mets m, je fais sortir em. En moins em fois m dan égale m dh n. De sorte que, finalement, m dan pour m différent de n est égal à m dh n sur en moins en. Donc ça, c'est la manière dont l'état propre n a changé et il se décompose sur tous les états m différents de n. Alors, une petite remarque à ce propos-là. Quand je fais de la théorie de perturbation au premier ordre, je regarde le changement d'un vecteur propre n en n plus delta n. Et ce vecteur propre, théorie de perturbation au premier ordre, il se décompose, c'est ce que je viens de redériver là, sur tous les autres états du système. Je suppose qu'il n'y a pas de dégénérescence. M, changement de l'hamiltonien n sur en moins em m. Et puis quand vous faites de la mécanique quantique la première fois, en général, ce que vous avez ici, c'est n. C'est-à-dire que vous calculez delta n comme étant ceci. Et en réalité, ici, il y a une phase. C'est-à-dire qu'on peut avoir un changement de la phase du vecteur propre quand on applique une perturbation au premier ordre à l'hamiltonien. Et c'est précisément ce changement qui est encodé dans la phase de Perron. Donc la formule générale de la théorie de perturbation au premier ordre, c'est ça. Avec la possibilité d'un changement de phase. Alors maintenant, on a presque fini. Donc on a établi ces expressions. Et vous voyez que je peux prendre l'expression qui est ici, insérer un ensemble complet d'états, donc écrire ça comme moins deux fois la partie imaginaire somme sur m de dan m m dan m dbn, utiliser les expressions qui sont là-bas pour finalement obtenir une expression de la courbure de Berry décomposée sur les états. Donc, courbure de Berry, le tenseur de courbure de Berry pour l'état considéré n. En insérant les expressions dans celle-ci, j'obtiens I, somme sur m différent de n, de n dh m, m dbh n moins sont symétriques, divisé par en moins em au carré. Et au miracle, ça commence fortement à ressembler à la formule de Kubo de tout à l'heure. On finira après la pause. Quelques remarques sur cette expression. D'abord, vous voyez que c'est un tenseur clairement antisymétrique. Bon. La chose importante à remarquer, c'est que la courbure de Perry devient grande quand un des états m qui est ici s'approche dangereusement de l'état n considéré. Donc, dans tous les exemples qu'on va voir dans la suite, par exemple dans le graphène avec une masse et modèle de Holden, etc., la courbure de Berry est concentrée sur les endroits où il y a des quasi-dégénérescences de niveau. Donc voilà l'expression de la courbure de Berry de manière très générale, décomposer sur les états propres du système. Et après la pause, on va fermer la boucle et directement relier ça à la formule de Kubo pour sigma xy et en déduire la quantification, la robustesse de la quantification de sigma xy.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.